Moïse voit un buisson en feu, mais le buisson ne se consume pas. Et Dieu parle au milieu du buisson. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Bien après, les pèlerins d'Emmaüs rencontrent sur leur chemin un homme. Il leur ouvre la compréhension de la mort et de la résurrection du Christ. Quand il leur parlait des Écritures, leur cœur était tout brûlant, sans se consumer. La même expérience spirituelle que Moïse. Aujourd'hui encore, Dieu vient brûler nos cœurs, non pas pour les écorcher, mais pour cicatriser de son amour nos blessures, pour allumer en nous l'espérance, pour réchauffer notre foi. C'est lui qui nous donne sa grâce et sa paix. Nous chantons les strophes 1, 4, 5 du Cantique Magnifique et le Seigneur, c'est le 1403, et il se trouve à la page 212. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous, que chacun se sente ici, chez lui. Nous louons le Seigneur. Il y eut un soir, il y eut un matin. La terre était déserte et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y eut aussi des millions d'autres jours. Et depuis chaque nuit, nous pensons au lendemain. Chaque matin, nous sommes émerveillés, étonnés par la lueur de l'aurore, éblouis par les rayons du soleil. Ravis que tu sois, que tu te sois manifesté à nous en Jésus. Réjouis par sa résurrection, apaisés par sa présence dans notre monde et dans nos vies. Loué sois-tu. Amen. Et nous chantons dans le même cantique, page 212, Magnifique est le Seigneur, la strophe numéro 8. Reconnaissons nos fautes devant le Seigneur. Seigneur, tu connais nos peurs et nos angoisses, notre foi et notre fatigue. Tu connais aussi notre orgueil et nos préjugés, notre manque de courage lorsqu'il s'agit de donner toute sa place à la justice ou de proclamer la vérité et de la défendre. Relève-nous, viens toi-même nous recréer avec la puissance de ton esprit. Amen. Dieu nous pardonne, il nous dit, sur la dureté de notre cœur, notre Dieu fait lever la douceur de son visage. Sur la tristesse de nos fautes, il fait lever la joie du pardon. Sur notre angoisse, il fait lever la paix de son amour. Sur le vide et l'engourdissement de nos journées, il fait lever la joie de la vie retrouvée. Son pardon fait de nous des fils retrouvés. Allez et vivez de sa grâce tous les jours de votre vie. Nous chantons le cantique « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Alors, pour ce cantique, nous allons chanter... Alors, il est à la page, je vous invite à prendre le cantique, il est à la page 220. Nous en chanterons les deux strophes. Et entre chaque strophe, nous rechantons la strophe avec simplement les paroles « Alléluia ». Et il y a deux voix, il y a la voix de la strophe et il y a la voix en haut. À vous de choisir celle qui vous convient. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à ta parole, à la parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Alors nous allons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35. C'est un épisode bien connu, celui des pèlerins d'Emmaüs. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth ?» C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ? » Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route, mais ils le retinrent en disant « Reste avec nous, le jour baisse ». Et la nuit approche. Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin ?» et nous expliquait les Écritures. Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples, réunis avec leurs compagnons, qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité, Simon l'a vu. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Alors, quel vous semble être le mot central du récit de Luc, connu sous le titre « Les disciples » ou « Les pèlerins d'Emmaüs » ? Pour moi, c'est sans doute le verbe « reconnaître ». Ce récit raconte en effet un itinéraire géographique, bien sûr, puisque ces deux hommes et celui qui les accompagne marchent de Jérusalem jusqu'à Emmaüs. mais surtout, bien sûr, un itinéraire spirituel. Un itinéraire qui va de Jésus s'approcha, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, au début du texte, jusqu'à « alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ». Alors reconnaître, oui, mais comment ? Ils sont innombrables, les tableaux des peintres qui représentent Jésus, d'une manière souvent étonnante. Était-il vraiment ce grand blond que l'on découvre dans la plupart des œuvres picturales, plus scandinave d'aspect que méditerranéen ? Ressemblait-il à un président américain ? Je n'en suis pas sûre. Mais il me semble que l'apparence physique n'est jamais vraiment précisée dans la Bible. Sans doute parce que cet aspect est secondaire. Pour identifier quelqu'un, la vue ne suffit pas. Et c'est sans doute ce qui est dit quand il est signifié à propos de ces deux hommes que qui cheminent vers Emmaüs, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ce n'est pas une cécité physique, ce n'est pas un obstacle extérieur qui obstrue la vue de ses disciples, qui les empêche de voir. C'est leur découragement, peut-être aussi les limites de leur foi. Pour citer une œuvre laïque, on pourrait penser au Renard du Petit Prince, qui dit « on ne voit bien qu'avec le cœur ». Or, ces deux hommes, comme la plupart d'entre nous, ont besoin de voir de leurs propres yeux pour reconnaître et pour croire. Et bien qu'ils aient été stupéfiés par le récit des femmes venues le matin même au tombeau du Christ, ils ne peuvent leur faire crédit, peut-être parce que ce sont des femmes, peut-être aussi parce que les disciples qui ont voulu vérifier les dires des femmes qui sont allées donc au tombeau ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Ce sont les épisodes qui précèdent immédiatement notre récit. Ce qui va permettre à ces disciples d'Emmaüs de reconnaître Jésus, c'est la force de sa présence, c'est sa parole et ce geste de rompre le pain. Alors observons de plus près cet itinéraire qui s'opère en eux, itinéraire qui les mène du besoin de voir à la possibilité d'entendre, et qui, du récit initial sur leur tristesse, les rend peu à peu à la vie et va les conduire au témoignage. Ces pèlerins retournent à Emmaüs après avoir vécu l'arrestation et la crucifixion de Jésus. Et ils sont sombres, enfermés dans leur tristesse. Les événements ont pris pour eux une tournure inattendue. Celui dont ils attendaient la délivrance d'Israël, celui en qui ils voyaient un prophète puissant, en œuvre et en parole, comme ça nous est dit dans le texte, bref, celui qu'ils avaient l'impression de connaître, celui-là a été condamné à mort et crucifié. Et pour eux, cette mort, c'est une fin. La fin de leur histoire partagée avec ce prophète, la fin de leurs espoirs, une fin définitive qui les rend comme morts à eux-mêmes. En voyant Jésus mourir, comment ne pas avoir le sentiment que tout s'effondre ? 3 années d'espoir, d'enthousiasme, de joie à écouter Jésus pour que cela se termine ainsi. Et ce qui les afflige, c'est aussi la désillusion de voir que Jésus n'est pas celui qu'ils attendaient. puisqu'il n'a pas pu ou n'a pas su se défendre, et moins encore délivrer Israël. Certes, Jésus avait bien annoncé sa mort, mais il ne l'imaginait pas si tôt, et ni comme ça, une mort sur la croix, une mort ignominieuse, réservée aux esclaves. Et puis, Jésus avait annoncé sa résurrection au troisième jour. Mais on est le troisième jour et rien ne s'est produit. Du moins, rien de visible, rien de tangible, rien de retentissant. Alors, quel décalage entre leurs attentes et les événements des trois derniers jours, entre l'image qu'ils avaient du prophète Jésus et celle que sa mort révèle. Ils ne savent pas que penser, et cela se lit dans le récit qu'ils font à Jésus des événements qu'ils viennent de connaître. Ils font un simple récit des faits, de faits qui les dépassent. Alors comment de ce découragement, de ce grand désarroi, de cette mort morale, reviennent-ils à la vie, à leur propre résurrection, puisque à peine ont-ils reconnu le Christ qu'ils se lèvent et retournent à Jérusalem pour témoigner. À ces hommes déboussolés, Jésus va se rendre vivant. C'est d'abord un simple compagnon de marche, cette présence qui fait du bien quand on se sent perdu. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Tout est dit en ces deux verbes de la démarche du Christ. S'approcher, faire route avec. En Jésus, Dieu se fait proche des hommes. Il partage leur histoire. Notons d'ailleurs qu'avant de parler, il prend le temps de les écouter. Il les invite à raconter ce qui s'est passé, à mettre des mots sur leur désarroi, et ils peuvent ainsi commencer ce cheminement intérieur qui va peu à peu dessiller leurs yeux. Puis il va leur permettre de retrouver le sens profond des Écritures. Il renoue les fils de leur histoire, il l'interprète, il l'explique. Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Cela ne suffit pas, mais cela les remue, les accroche, puisque, arrivés à Emmaüs, ils pressent cet étranger de demeurer chez eux. Bien sûr, ils le font d'abord parce que les lois de l'hospitalité de ce temps-là veulent qu'on insiste pour accueillir chez soi l'étranger. Mais ce n'est pas que ça. Sans doute ont-ils envie, sans doute ont-ils besoin de prolonger l'échange, cet échange si profond initié sur la route. Et là va se produire le moment décisif. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors, contrairement à ce qui est écrit dans l'évangile de Marc, par exemple, Jésus n'accompagne pas son geste des paroles qui seront tout à l'heure prononcées, qui sont celles de notre scène. Au-delà de l'amitié et de la fraternité partagée, la bénédiction, la fraction et la distribution du pain ont suffi aux disciples, comme à nous-mêmes, à rappeler la rencontre du Christ ressuscité. Peut-être cet instant n'aurait-il d'ailleurs pas été aussi décisif s'il n'avait été préparé par la route faite ensemble. Ils diront ensuite « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Il leur a fallu tout ce cheminement comme une invitation à rencontrer le Christ. Ainsi, la rencontre avec le Christ a pu donner un sens nouveau à ces événements tragiques dont ils avaient été témoins à Jérusalem, là où ils ne voyaient qu'un échec, car avec la mort de Jésus, c'est leur espérance d'une vie libre qui était morte, ils découvrent à présent, au fil de leur cheminement avec le ressuscité, que cette mort est en réalité le commencement d'une vie nouvelle. Ce qui pour eux était jusque-là un échec désespérant devient un ferment d'espérance. Et la fraction du pain, ce n'est pas une simple répétition d'un geste, c'est bien l'assurance pour chacun d'entre eux, pour chacun d'entre nous, que le Christ est là, qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde », sans qu'on ait besoin de le voir. Et pour les disciples d'Emmaüs, il peut disparaître dès le pain rompu. Oui, il peut disparaître, car le Christ ressuscité, ce n'est pas une image. Une image que l'on contemple de l'extérieur. Et la résurrection, ce n'est pas davantage une affaire de grand spectacle. C'est le cœur des disciples que vient toucher Jésus. D'ailleurs, lorsque leurs yeux s'ouvrent, ils ne parlent pas de ce qu'ils ont vu, mais de ce qu'ils ont ressenti. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous ? Non, pas de grand spectacle, pas de foule avide de voir, mais une approche aimante, discrète, mais combien forte. Au plus profond de leur désarroi, au plus profond de nos égarements et de nos désespoirs, Jésus, le ressuscité, se fait ressuscitant. Il ranime le feu couvant sous la cendre. Il nous rend à la vie. Il nous invite et nous encourage à nous mettre nous aussi en marche à côté de nos frères et de nos sœurs. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 5305, qui est à la page 866. Il n'est pas affiché. Donc, page 866, cantique 5305, marche en ma présence. Nous en chantons les quatre strophes.
Thank you.
nous te bénissons, Seigneur, du ciel et de la terre, pour tous les biens que ta main dispense à profusion. Que cette générosité nous inspire, au sein du monde étriqué et calculateur dans lequel nous vivons. C'est le moment de l'offrande. Alors, une petite précision, nous avons la chance, la joie d'avoir avec nous quatre choristes de la chorale Capernaum qui vont chanter pendant l'offrande un très beau chant. Je vous invite à l'écouter. Accepte, Seigneur, ce matin nos offrandes en réponse à tes dons multiples et en signe de la libération à laquelle tu nous appelles. Amen. Et merci encore, non pas à ces quatre, mais à ces six choristes qui ont interprété ce chant. C'est le moment des annonces. Alors, je ne sais pas qui fait les... Donc, Pierre.
Bonjour. Excusez-moi, je pensais que quelqu'un avait prévu ça, comme j'étais un peu en retard. D'abord, je voudrais simplement vous remercier pour les témoignages d'affection que vous m'avez portés à l'occasion du départ de mon papa. Voilà, je vous remercie d'être là ce matin. Cette semaine, si j'ai bien vu en passant, il y a jeudi le catéchisme pour adultes en visioconférence. Voilà. Sinon, les activités habituelles, c'est-à-dire la prière, je pense qu'elle reprend mardi matin à 7h, et puis le mercredi à 18h, et puis la chorale à 19h15 le mardi soir. Est-ce que j'oublie quelque chose ? J'ai oublié de dire merci, mais j'ai pas repéré qui jouait du piano.
Andrea.
Merci à Andrea pour le piano et à la chorale. Et puis merci à ceux qui ont préparé cette table de scène avec les belles fleurs, le pain et le jus de raisin. Merci.
Ceux qui ont préparé cette belle table, ce sont Nicolas, Frédéric et Jean-Michel. Donc on les remercie en effet. Un petit mot sur ces deux jolis bouquets, enfin sur un des deux, le lilas. Le lilas en grec, ça se dit Pascalia, c'est la fleur de Pâques. Voilà, donc c'est en lien encore avec notre texte. Et puis, une petite chose personnelle. J'ai marché pendant ces trois derniers jours avec deux personnes qui sont ici au culte, Cécile et Barbara, et avec 17 autres marcheurs venus de la Drôme, de l'Isère, du Vaucluse et puis de la Haute-Savoie, donc, sur le sentier des Huguenots. Alors, le sentier des Huguenots, c'est un sentier donc qui a été créé il y a déjà un certain nombre d'années, c'est un GR, qui part pour son parcours initial, qui part de Poët-Laval, dans la Drôme, et qui remonte jusqu'au nord de l'Allemagne, et qui essaie de suivre, parce qu'on n'est pas toujours sûr exactement des parcours, mais qui suit donc ce parcours qu'ont suivi nos ancêtres persécutés, qui fuyaient à la fin du XVIe siècle les guerres de religion, ou au XVIIe siècle les persécutions de Louis XIV, persécution devenue plus forte après la révocation de l'édit de Nantes. Voilà. Et donc nous avons marché sur ce chemin. Donc le texte des pèlerins d'Emmaüs résonnait particulièrement, peut-être à ce moment-là, parce que nous étions en chemin et que la marche porte et donc nous rapproche aussi les uns des autres. Voilà, c'était juste une petite parenthèse personnelle. Alors, nous allons célébrer la scène. Donc, j'invite Nicolas et Frédéric à me rejoindre.
Est-ce que vous entendez maintenant ? Oui, vous entendez bien. Avant de prendre ensemble le repas du Seigneur, nous voulons louer Dieu. Seigneur, nous te louons parce que tu nous aimes et que nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ, vivant au milieu de nous.
Nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré nos différences et nos distances, et qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Oui, nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton royaume. Loué sois-tu. Amen.
Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi.
De même, après avoir mangé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Prière de communion. Père saint et juste, nous voulons par notre geste nous souvenir du sacrifice offert pour nous et par amour pour nous, par notre Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons nous offrir nous-mêmes à toi en sacrifice vivant et saint. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous la certitude de ton pardon et de ta grâce, afin que nous puissions t'accueillir d'un cœur libéré.
Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous sachions communiquer de tout notre cœur à la personne du Christ, à sa vie, à la bonne nouvelle de son enseignement, à sa mort et à sa résurrection, qui est la vie éternelle que tu nous offres par grâce. Amen.
Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Que tous ceux qui reconnaissent sa voix lui ouvrent la porte, viennent communier avec lui les uns avec les autres pour former un seul corps. Nous allons former un cercle autour de cette table. Vous êtes tous invités au repas du Seigneur. Ceux qui ne désirent pas communier l'indiqueront simplement d'un geste à ceux qui distribuent. Nous communions avec du pain et du jus de raisin. Venez, car tout est prêt. Et prenez vos cantiques. Avec vous, nous allons chanter pendant la scène. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. la coupe de bénédiction à laquelle nous rendons grâce et communions au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été répandu pour nous. Grand merci à Yura et à sa maman pour ce joli morceau. Nous allons chanter. Nous allons chanter le cantique 2404. Ô Jésus, tu nous appelles.
Jésus, tu nous appelles.
d'action de grâce. Grâce te soit rendue, Père, pour ta présence auprès de nous, sur nos routes, pour ta vérité que nous a manifestée en Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère. Grâce te soit rendue pour l'esprit d'amour, de force et de sagesse que tu veux répandre dans nos cœurs pour notre joie et le service des autres. Amen.
Nous allons prier maintenant les uns pour les autres. Nous appelons la prière d'intercession. Au cours de la nuit, Jacob se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants. Il leur fit traverser le gué de Yabok avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore.
Seigneur, nous sommes comme Jacob en marche, seuls dans nos maisons, en lutte avec un ennemi bien plus fort que nous, dissimulé partout autour de nous, impossible à saisir, mais pas à attraper. Un ennemi qui nous échappe, mais à qui on n'échappe pas. Aujourd'hui, nous sommes sur la rive, comme Jacob, avec nos incompréhensions, nos questions, nos révoltes, nos peines, nos frustrations, nos peurs. Nous voulons te remettre tout cela. Jacob lutte toute la nuit. Et nous savons que, comme lui, le chemin sera long, que la nuit sera longue et l'aurore peinera à poindre. Nous voulons te remettre nos impatiences, nos hâtes, nos envies de reprendre au plus vite notre vie d'avant.
Quand l'adversaire vit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche et celle-ci se déboîta.
Seigneur, tu connais nos douleurs. Tu sais combien elles sont vives. Tu vois les larmes pour celles et ceux qui souffrent. Nous connaissons tous des gens en larmes. Nous voulons te les remettre dans le secret de nos cœurs. Comme Jacob, nous savons que nous ne ressortons pas de nos blessures comme nous y sommes entrés. Nous en sortirons en boitant, en claudiquant. Aide-nous à ne pas oublier, à garder en mémoire les chemins que nous avons traversés. Garde vif en nous les chemins explorés et les nouvelles pratiques plus solidaires que nous en tirons.
Après avoir demandé la bénédiction à son adversaire, Jacob reçut un nouveau nom, Israël, celui qui lutte avec Dieu. Jacob repartit de cette nuit avec l'assurance d'avoir vu Dieu face à face.
Seigneur, comme Jacob, nous voulons te demander de nous bénir et de bénir tous ceux auxquels nous pensons, tous ceux qui nous sont proches et qui se retrouvent loin de nous. Nous te les remettons dans le secret de nos cœurs.
Nous voulons te demander de bénir ceux qui œuvrent actuellement au changement, les hommes et les femmes qui repensent le monde et permettront à l'ensemble de l'humanité de trouver un quotidien où tous les besoins fondamentaux seront comblés. Nous te prions particulièrement pour les responsables politiques, les maires, pour qu'ils puissent avoir le courage de prendre les décisions qui promeuvent la vie, que tu puisses les inspirer.
Et ensemble, nous voulons te dire la prière que ton Fils Jésus-Christ nous a donnée. Notre Père, vous invite à vous lever pour la bénédiction. Que le Dieu de toute paix, qui vous remplit de son esprit, vous bénisse et vous garde dans sa paix aujourd'hui et pour toujours. Amen.
Amen.
Et nous chantons le dernier spontané de cette période, la paix du Seigneur.
Peut-être rappeler que dimanche, le culte ne sera pas.
Oui, dimanche prochain, il n'y a pas de culte. Ici, à Annecy, il y a un culte.
Il y a le culte, mais pas ici.
Mais pas ici, oui, parce qu'il y a un week-end de concert.